Alors, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Marion Masse, qui est maîtresse de conférence en langue et littérature française à l'Université Lyon 1 et qui est en poste à l'INSPE, tant que l'INSPE existe encore avant la nouvelle mouture qui nous pend au nez incessamment sous peu, hein, une nouvelle structure qui va encadrer la formation des enseignants. Donc à l'INSPE de Lyon, et elle est membre de l'IRIM, comme Stéphanie Dore, qui est ici avec nous également, hein, comme centre de recherche. Elle est balsacienne et a consacré sa thèse publiée au Classique Garnier il y a quelques années aux représentations de la paternité dans la comédie humaine, donc sur un sujet qui est tout à fait corrélé à ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Mais Marion ne travaille pas que sur Balzac, puisqu'elle travaille également en didactique de la littérature et en littérature de jeunesse. Et elle a publié, elle a coordonné très récemment un volume collectif qui est paru en 2023, qui est consacré, alors ça a des échos pour nous tout à fait liés à Bovary, hein, à l'éducation des jeunes filles, aux lectures des jeunes filles au 19e siècle. Le titre est charmant. Il faudrait donc qu'elle lise beaucoup, hein, comme une interrogation posée. Enjeux pédagogiques de la littérature des filles au 19e, hein, qui est le dernier ouvrage collectif qu'elle a coordonné. Voilà. Elle travaille sur les rapports entre droit et littérature, et elle a aussi travaillé sur la question de la valeur, notamment du côté de la didactique. Voilà. Et aujourd'hui, elle nous propose une réflexion sur les liens de parenté, hein, et donc la question de l'enfant aussi, de la place de l'enfant chez Balzac et Maupassant, que nous mettrons en corrélation sans nul doute avec la représentation de l'enfant chez Flaubert. Merci Marion, et on te laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisatrices Florence Pellegrini et Juliette Azoulay pour leur invitation et présenter mes excuses auprès des collègues du séminaire que je n'ai pas pu écouter en direct ces derniers temps parce que j'ai cours normalement le vendredi après-midi. Et voilà, mais j'ai réécouté grâce au site et à la possibilité du replay les interventions en différé. Alors, je vais quand même surtout vous parler de l'enfant, plus que des relations familiales, enfin si bien sûr des relations familiales, mais mon propos sera quand même centré autour de l'enfant, mais autour de avec une approche droit et littérature. À propos des orphelins, des bâtards et des cadets de l'âge classique, Christian Bier parle de personnages en défaut de loi commune. Délié par rapport à la famille et au système de transmission des biens, il présente une disponibilité narrative propre à questionner les institutions sociales et juridiques en mutation. S'il diffère de leurs prédécesseurs, le Picaro ou le fils ou la fille d'un homme de qualité, orphelin, enfant naturel et à contrario héritier, souvent déjà désargenté, continue à peupler le roman du XIXe siècle. Et c'est le cas chez Balzac et chez Maupassant, comme chez beaucoup de leurs contemporains. Mais la mise en scène de ces personnages, donc d'enfants naturels, d'orphelins et d'héritiers, j'en parlerai peu en fait, chez Balzac et chez Maupassant, manifeste quelques caractéristiques remarquables. Tout d'abord, ces personnages sont fréquemment décrits en relation avec des catégories du droit, par des références directes ou indirectes au code civil ou aux contraintes liées à leur statut juridique. Ensuite, ce sont des enfants et non plus de jeunes gens tout juste émancipés ou en passe de l'être. Si faire de l'enfant un personnage à part entière et non plus une simple silhouette est bien attesté à l'époque de Maupassant, puisque Sand, Hugo, Daudet, Vallès sont passés par là, cela l'est beaucoup moins à celle de Balzac, où l'enfant n'a guère de place que dans la littérature pour la jeunesse. Reste que rendre compte du point de vue d'un enfant dont le destin de narratif est arrimé à son statut juridique d'enfant naturel ou d'orphelin demeure original. Et c'est ce que font Balzac et Maupassant dans Pierrette, par exemple, publié en 1840, Ursule Mirouet en 1841, et un certain nombre de nouvelles. Je m'intéresserai surtout à quelques nouvelles de Maupassant. Le Papa de Simon, publié le 11 février 1879 dans La Réforme, puis en volume dans La Maison Tellier en 81, et en partie dans Un parricide, qui saisit fugitivement le regard de l'adulte sur l'enfant qu'il fut, et qui a été publié le 25 septembre 1882 dans Le Gaulois et en janvier 85 dans Les Contes du jour et de la nuit. Je voudrais donc interroger dans ces textes les enjeux du croisement entre concepts juridiques et représentations littéraires sur la figuration de l'enfant, en me demandant en quoi la représentation des enfants à partir des catégories du droit ouvre de nouvelles possibilités de représentation littéraire et ce qu'elles nous disent de nouveau. Dans la mesure où au XIXe siècle, l'enfant progéniture est investi de multiples stratégies, de multiples rôles, où l'enfance est la cible de nombreux discours médicaux, religieux, éducatifs, philosophiques, mais aussi la cible de lois nouvelles, cela me conduira à m'interroger sur les spécificités de l'enfant que la littérature saisie par le droit fait apparaître par rapport à d'autres discours et sur la manière dont ces représentations questionnent la famille. Mais pour développer et préciser mon propos, il est nécessaire de commencer par un rapide préambule sur le statut de l'enfant en droit. C'est ce que j'ai à faire à présent.
Excusez-moi Marion, excusez-moi. Faites attention, j'ai l'impression que vous touchez votre micro tout en parlant. Voilà, donc faites attention parce qu'il y a des sons parasites. Ouais.
Pardon.
Non, pas de problème.
Je vais faire attention. Donc, quelques éléments pour essayer de cerner le statut de l'enfant en droit au 19e. Alors, quels que soient les discours qui le définissent, l'enfant est reconnu depuis Jean-Jacques Rousseau comme un être radicalement différent de l'adulte, avec des besoins physiques, intellectuels, affectifs et éducatifs spécifiques. Pour autant, comme le constate Michel Perrault, la Révolution n'élabore pas de droits de l'enfant. Mais, dit encore Michel Perrault, elle ouvre des brèches que le 19e agrandit ou colmate. Ainsi, pendant longtemps, note Daniel Gutmann dans le Dictionnaire de la culture juridique, enfant ne fait pas partie du vocabulaire juridique. Et dans le Code civil, le droit ne connaît d'abord l'enfant que dépersonnalisé, c'est-à-dire comme mineur défini en creux par les règles régissant sa capacité juridique. Et même si ce mineur, pardon, devient progressivement la cible d'un certain nombre de lois dans le code pénal et un certain nombre de lois relatives au travail au cours du 19e. On peut distinguer en fait deux grands axes de définition de l'enfance en droit, la minorité donc et la filiation. La minorité dessine globalement l'enfance comme un âge à protéger. En effet, l'incapacité juridique, depuis Aristote, est une manière, je cite encore Daniel Gutmann, d'éviter les méfaits de l'incapacité naturelle. C'est une technique juridique de protection. L'incapacité du mineur est une incapacité d'exercice, c'est un régime de protection destiné à éviter que l'on abuse de la méconnaissance par l'intéressé des droits qu'il tient de la loi. Cette protection minimale, donc, détermine aussi des droits qui sont issus des devoirs des parents, comme l'indiquent les quelques articles du Code civil que j'ai recopié sur la diapo. Donc, ces droits sont les droits civils innés, comme la possession d'État, et donc des droits issus des devoirs des parents, à savoir la nourriture, l'entretien, le fait d'être élevé. Voilà, donc ces droits sont vraiment minimes, hein, le Code civil ne s'étend pas beaucoup sur la question. Cependant, cette protection minimale est tempérée par la puissance paternelle qui, si elle est limitée par rapport à l'ancien régime, demeure très importante. Le père a encore, avec le droit de correction paternelle, le droit de faire enfermer son enfant, par exemple, au 19e. On constate donc d'emblée que l'enfance, en droit, fait l'objet d'une conception ambivalente entre un âge spécifique à protéger et un âge qu'il faudrait brider, redresser. Jean-Louis Halperin, historien du droit et spécialiste du Code civil, explique ainsi, je cite encore, Le Code civil de 1804, fondé sur une conception pessimiste de la nature humaine, recourt volontiers à la contrainte et aux pressions autoritaires pour brider les passions de la jeunesse. Il y a une forme de violence dans l'autorité paternelle restaurée en 1804. Alors, je précise que le Code civil ne change que très très peu dans la législation relative à la famille au cours du 19e, et tout court d'ailleurs au cours du 19e. Les lois pénales concernant les enfants délinquants révèlent une ambivalence semblable. Il n'existe pas de statut particulier pour l'enfant au pénal avant le début du XXe siècle. Les enfants ne sont jugés par des tribunaux spéciaux qu'à partir de 1912, par exemple. Tout au long du XIXe, les enfants délinquants sont globalement jugés comme des adultes, simplement avec des circonstances atténuantes. Certes, au début du siècle, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, les enquêtes dans le monde carcéral présentent bien plus souvent les enfants comme des victimes que comme des coupables. donc comme des êtres à corriger, à améliorer. D'où la mise en place de trois institutions devant fonctionner en synergie, la prison réformée, les colonies agricoles et le patronage exercé par les familles d'accueil. Mais, comme le note Benoît Garneau, avec 48 et la peur sociale, la volonté répressive l'emporte sur la volonté éducative. Cependant, là encore, il faut nuancer. Les historiens soulignent également l'attention particulière portée à la spécificité de l'enfance, à l'éducation et à la souffrance à partir du milieu du siècle, avec notamment deux grandes séries de lois, les lois sur la limitation du travail des enfants et les lois sur la répression des violences faites aux enfants, donc loi sur le travail 1841 et 1874 et loi sur la protection de l'enfance 89 et 98. Donc j'en ai indiqué ici les dispositions principales. Michel Perrault rappelle que la mise au travail précoce des enfants préoccupe les médecins et les philanthropes, hein, on peut penser à Villermé et à son enquête de 1840, hein, tandis que l'instruction des enfants d'âge scolaire préoccupe l'État, l'instruction étant, selon Guizot, un devoir de citoyen et un droit de l'homme. En outre, comme le montre Georges Vigarello, en fixant des âges et des durées, la première loi sur la réglementation du travail des enfants, le 22 mars 1941, désigne, je cite, désigne bien une protection de l'enfance malmenée, premier moment dans une lente prise de conscience. D'autant plus que l'article 8 de cette loi interdit explicitement, je cite, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif. L'historien ajoute que du 19e siècle, un martyrologue très particulier, celui de l'enfance battue. La presse accumule les cas après 1870-1880, ce qui aboutit donc à la loi de 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés et à celle de 1898 sur la répression des violences commises envers les enfants et qui pouvaient conduire à la déchéance paternelle. Les historiens soulignent le fait que ces lois, si elles témoignent d'une attention grandissante aux enfants dominés, écrasés et à l'injustice de leur sort, constituent aussi évidemment des instruments de contrôle sur les familles pauvres. Voilà donc pour la minorité. La filiation, elle, en définissant notamment l'appartenance à ou l'exclusion de la famille par les droits de succession, rappelle qu'il y a, dans le Code civil, des personnages plus égaux que d'autres, selon la formule de Jean-Louis Alperin. Et de fait, enfants naturels, enfants adultérins et enfants abandonnés sont à des degrés divers, plus ou moins exclus du droit. Les enfants naturels, s'ils sont reconnus, peuvent prétendre à une part successorale. Ils ne sont donc pas totalement exclus, mais leurs droits restent très limités. Les enfants adultérins, eux, sont complètement exclus de la succession. Ils n'ont droit qu'à des aliments. Les enfants abandonnés, enfin, sont plus que les autres, selon Yvan Jablonka, des enfants, je cite, sans lien social et hors du droit. Cependant, recueillis par l'assistance publique, ils bénéficient d'un certain nombre de droits à partir du milieu du siècle, et leur nombre est important dans un pays qui, comme la France, ne reconnaît pas, enfin refuse, interdit la recherche en paternité. La question de la filiation se trouve souvent liée de ce fait à des questions, à des questions pénales, puisque les enfants abandonnés sont souvent aussi des enfants naturels et sont souvent aussi voués au vagabondage. Donc ce rapide parcours à travers les lois concernant l'enfant dessine donc un trajet allant de la dépersonnalisation à la reconnaissance de l'enfant comme personnalité juridique spécifique, c'est-à-dire avec des prérogatives et des devoirs liés à son âge. Or, les historiens du droit s'accordent à reconnaître, enfin, le rôle de la littérature dans l'évolution des sensibilités et des lois relatives à l'enfance, notamment le rôle de Dickens et de Hugo sur les lois sur le travail ou la maltraitance des enfants. On peut alors se demander si et comment Balzac et Maupassant participent à ce débat, ou plus exactement, comment ils en éclairent d'autres facettes, tout en contribuant à construire un nouveau personnage littéraire. Tous deux abordent la question du point de vue du droit civil, qui croise parfois le pénal, dans des situations moins exceptionnelles peut-être que celles de Hugo ou de Dickens, et surtout dans toutes les classes sociales. Je voudrais donc interroger la spécificité de ces représentations d'enfants, en considérant, avec Christian Bier, que la littérature a une fonction projective. Selon le critique, en effet, la littérature met en cause et dépasse les vides interprétatifs contenus dans les questions juridiques pour imaginer de nouvelles conduites, à la fois fondées sur le droit et recourant à des stratégies qui s'en écartent. Dès lors, je me demanderai dans quelle mesure les représentations de l'orphelin et de l'enfant naturel de Maupassant et de Balzac contribuent à questionner, enrichir, infléchir les catégorisations juridiques qui en creux définissent l'enfant, en particulier les notions de minorité et de protection, et ce faisant, à construire un regard neuf sur l'enfance. Je commencerai par dresser un panorama de la manière de représenter les enfants en fonction du droit, ce qui me conduira à montrer comment les catégorisations juridiques font émerger chez les deux auteurs une figure singulière de l'enfant souffrant. Donc, j'en viens à mon premier point, la représentation des enfants saisis par le droit. Dans les récits qui mettent un enfant en scène, Pierrette, Ursule Mirouet, le papa de Simon, un parricide, l'enfant est doublement déterminé juridiquement. Il est mineur et en défaut de loi commune, puisque Pierrette et Ursule Mirouet sont orphelines, et Georges-Louis et Simon sont des enfants naturels. Donc le premier élément qui marque l'inscription du droit dans les récits concerne la désignation des personnages. De nombreux ans, Georges-Louis, dans un est désigné enfant naturel par le narrateur et rapporte qu'il a été appelé bâtard dans son enfance. Dans Le Papa de Simon, le narrateur oppose le clan des légitimes, hein, c'est le terme qui est utilisé dans la nouvelle, au protagoniste, caractérisé par le syntagme récurrent pas de papa, dont l'étrangeté sonore dans le récit crée un effet d'insistance singulier. Ursule Mirouet est tantôt appelée nièce naturelle, pupille et héritière, et Pierrette est souvent appelée pupille. Mais surtout, ce statut constitue un déclencheur narratif. C'est parce que Ursule Mirouet est une enfant naturelle que se pose la question de savoir si elle peut ou non hériter de son oncle et que se déclenche le récit des manœuvres de captation d'héritage. C'est parce que Simon et Georges-Louis sont des bâtards qu'ils sont exclus du jeu social et qu'ils cherchent à le réintégrer. Oui, pardon. Avant de tuer ses parents, Georges-Louis explique qu'il était prêt à les aimer. Et c'est parce que Pierrette est orpheline que les Rogron l'exploitent comme domestique et la maltraitent. Enfin, dans plusieurs de ces récits, des notions ou procédures juridiques modèlent la trame narrative. Les lois relatives aux successions dans Ursule Mirouet ou la définition juridique de la paternité dans Le Papa de Simon, par exemple. La nouvelle Un parricide, quant à elle, est ironiquement organisée sur la notion de reconnaissance dont elle exploite les deux versants littéraires et juridiques. Le récit joint à rebours sur le motif littéraire de la reconnaissance tel qu'il se formule dans le mélodrame. Les parents cherchent à aider anonymement leur enfant naturel qu'ils ont retrouvé adulte. Et lorsque celui-ci se met à soupçonner leur identité, ils refusent de se faire reconnaître au nom de deux préjugés sociaux, la peur du scandale et aussi la crainte qu'un ouvrier ne cherche à leur soutirer de l'argent. Contrairement au mélodrame, donc, la voix du sang, censée faire parler naturellement les sentiments familiaux, n'a pas d'existence. Or, le refus par les parents de se faire reconnaître renvoie au fait qu'ils n'ont pas reconnu devant la loi leur fils à la naissance. La reconnaissance, ou plutôt la non-reconnaissance dans sa dimension juridique, constitue le nœud du drame. Ces récits, où le statut de l'enfant est un élément majeur de l'intrigue, contribuent à donner un relief particulier aux personnages en défaut de loi commune par rapport aux enfants légitimes. On observe dans les récits une grande variété de cas de figure qui divergent notamment selon les classes sociales représentées, avec une récurrence cependant. Les enfants de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, qui sont les classes les plus représentées, sont traités sur le mode satirique et en référence à la caricature. Lieu de la reproduction biologique et sociale, la famille est représentée comme réitérée au sens propre. Ainsi, Henri, une nouvelle de passant, Louise ressemblait à sa mère déjà, parlait comme elle, répétant ses paroles, l'imitant même en ses gestes. Ou encore, je cite encore, les deux mioches suivaient toujours, s'agenouillant aussi dans un coin et répétant invariablement tout ce qu'ils voyaient faire à leur mère. Chez Balzac, ce sont très souvent les relations père-enfant qui subissent l'influence de la caricature. Dans ses romans bourgeois, le romancier les croque dans des scènes qui évoquent notamment la série des Bons Papas de Daumier et qui mettent également l'accent sur la hantise de la ressemblance, sur le mode de l'imitation, voire de la dégradation, comme ce commentaire du narrateur en forme de maxime à propos des Rogron dans Pierrette, tout dégénère, leurs enfants furent affreux. Dans un autre cas de figure fréquent, également traité de manière comique ou satirique, l'enfant est un enjeu financier. Pivot d'arrangement entre pères impuissants ou épouses de pères impuissants et géniteurs, il a une fonction narrative, soit pour capter des héritages, donc on trouve, c'est très fréquent chez Maupassant, dans de nombreuses nouvelles de Maupassant, par exemple un héritage, le cas de Madame Huneau, il y a beaucoup d'autres exemples, ou alors pour continuer la famille, par exemple chez Balzac dans La Muse du département. Cependant, dans tous les cas évoqués, l'enfant demeure à l'arrière-plan du récit. Ce n'est pas son sort qui est en jeu, mais celui de ses géniteurs, et il n'est guère décrit. Ce type de mise en fiction sert un discours satirique à l'encontre de la famille bourgeoise. À l'inverse, les enfants, en défaut de loi commune, accèdent au rang de personnages. Dans Le Papa de Simon, Pierrette, mais aussi Ursule Mirouet, Un parricide ou encore Le Gueux, autre nouvelle de Maupassant, l'enfant est un véritable personnage. Il peut s'analyser selon les catégories sémiologiques de l'être, du faire et de l'importance hiérarchique établie par Philippe Hamon. Il est en effet doté d'un nom ou d'un surnom, le bourgeois dans un parricide, cloche dans Le Gueux. Bon, il a un prénom, Pierrette dans Pierrette. Voilà, il est doté d'une biographie, même sommaire, d'un portrait, même succinct. Il est également doté d'une intériorité. Il a une voix et un point de vue propre, et c'est cela qui importe. Et ces éléments, s'ils sont relatifs à l'être du personnage, manifestent aussi son autonomie et relèvent de procédés de qualification différentielle. Son rôle thématique, si on suit toujours les catégories de Hamon, correspond à la fois à sa classe d'âge et à son statut juridique. Comme enfant, il représente en effet, et c'est bien ainsi que sont figurés Pierrette et Simon. Un long portrait de la fillette vêtue en bleu et blanc évoque la figure mariale. Elle et Bigot, son jeune ami, sont à deux reprises comparés à Paul et Virginie, et le narrateur la désigne à plusieurs reprises comme cet ange. Pour Simon, la caractérisation d'innocence passe par la comparaison différentielle avec le groupe des gamins qui l'insultent. Je cite, et ces fils des champs, plus proches des bêtes, éprouvaient ce cruel besoin qui pousse les poules d'une basse-cour à achever l'une d'elles aussitôt qu'elle est blessée. Elle passe également par un réseau de connotations autour de la blancheur, exprimant l'absence de corruption. Il est le fils de la bien-aimée Blanchotte, il vit dans une maison blanche, très propre, et lui-même un peu pâlot et très propre. Le statut d'orphelin ou d'enfant naturel détermine, quant à lui, une position et un programme narratif. Au début du 19e, on parle plutôt d'enfant trouvé que d'orphelin. Et l'on pourrait dire, de manière schématique, qu'en littérature, la destinée de l'enfant trouvé est de surmonter un certain nombre d'épreuves, n'excluant pas la souffrance, qui le conduisent à réintégrer sa famille, souvent d'origine prestigieuse. Pierrette est certes une orpheline, mais elle est aussi une parente pauvre. Le premier rôle, celui d'orpheline, donc, induit la traversée d'une série d'épreuves transposées dans un huis clos et au quotidien, ainsi que la quête de protection. Balzac y ajoute la dimension de dépendance juridique avec la tutelle. Parente pauvre, Pierrette assume une position subalterne. Cependant, d'un point de vue actantiel, elle occupe aussi la position de sujet puisqu'elle cherche à vivre son roman d'amour avec Brigot. Le rôle du bâtard, quant à lui, est, comme l'a montré Christian Bier, de se resocialiser par son énergie et la reconnaissance de ses mérites. Dans nos récits, les personnages d'enfants naturels suivent bien une dynamique de réintégration sociale, mais la resocialisation passe par des voies inédites. Ursule Mirouet est à la fois sujet d'un roman d'amour qui l'a conduit à un mariage prestigieux et destinatrice d'une resocialisation par des opérations successorales complexes. Simon, lui, se trouve et se donne un père. Georges Louis, lui, dans Un parricide, ne se resocialise pas, mais le meurtre de ses parents le fait accéder à une resocialisation symbolique, pourrait-on dire, à travers une parole publique. Or, la relation entre ces différents rôles s'accompagne également d'une représentation de l'enfant comme d'un être capable de se déterminer et conduit à le présenter comme un sujet à part entière, ce qui questionne la notion de minorité. Donc, j'en viens à mon deuxième point, l'enfant comme sujet, point d'interrogation. Je me concentrerai ici sur Pierrette et le papa de Simon qui mettent en scène des enfants. Dans les deux récits, le statut de l'enfant engendre des souffrances qui entraînent en réaction un processus de subjectivation. Cette subjectivation s'exprime à la fois sur le plan du récit et sur le plan de la représentation de l'intériorité de l'enfant. Dans Pierrette, le défaut d'affection des Rogron est tel que la petite fille décide de s'enfuir pour retrouver sa grand-mère. Le narrateur caractérise cette intention de projet hardi. L'adjectif renvoie à la fermeté et au courage qu'il impose, tandis que le nom dénote une intention, un dessein. Le syntagme suggère alors que le personnage conquiert une autonomie par rapport aux normes qui limitent son action. Un autre épisode en témoigne. Sylvie Rogron, convaincue que Pierrette a un amoureux à qui elle parle depuis la fenêtre de sa chambre, la tourmente plus encore que d'habitude. Je cite. La colère de sa cousine lui faisait croire à quelques crimes. Elle se demanda quelle serait sa fureur si elle savait l'escapade de Brigot. Elle eut à la fois les mille pensées de l'esclave, si rapides et si profondes, et résolue d'opposer un silence absolu sur un fait où sa conscience ne lui signalait rien de mauvais. La restitution du point de vue raconté de Pierrette, alors point de vue raconté, j'emprunte là les catégories d'Alain Rabatel, indique qu'elle. Donc, voilà, le point de vue raconté, c'est le point de vue de l'acteur de l'énoncé, mais sans débrayage énonciatif. Donc, ce point de vue raconté indique que Pierrette prend sa décision à la suite d'un examen de conscience. Dans ce contexte, l'analogie entre Pierrette et l'esclave associe la dissimulation à un acte légitime de construction d'un espace de liberté. La fillette est donc représentée comme un sujet moral au sens plein du terme, un sujet capable de se déterminer librement et moralement. Un degré de plus dans la subjectivation apparaît dans les lettres que Pierrette écrit à Brigaut, puisque là, sa voix s'autonomise par rapport à celle du narrateur pour renouveler cet examen de conscience et affirmer son amour. La notion de minorité se trouve alors remise en jeu. La nouvelle de Maupassant, Le papa de Simon, en offre un exemple plus marquant encore. En effet, l'enfant prend l'initiative d'une recomposition familiale à laquelle le récit donne une valeur juridique puisqu'elle s'achève sur le mariage de la Blanchotte et de l'ouvrier Philippe Rémy. C'est en effet Simon qui prend en charge la demande de paternité. Voulez-vous être mon papa? Demande-t-il à Philippe, puis qui valide cette demande dans une formule à valeur performative. Eh bien, Philippe, tu es mon papa. Le nouveau père, lui, entérine cette adoption réciproque par un geste à valeur symbolique en, je cite, enlevant l'enfant de terre, geste qui rappelle celui par lequel un père reconnaît son enfant dans la Rome antique, tout en lui donnant une dimension familiale dans la nouvelle de Maupassant, il l'embrassa brusquement sur les deux joues. C'est encore l'enfant qui est à l'origine de la demande en mariage et donc de l'officialisation de l'adoption qui passe cette fois par une demande indirecte. Dis donc, Philippe, le gars à la michaude m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait, parce que tu n'es pas le mari de ma maman. Il est significatif que l'enfant emploie la formule ju juridique, le père et le mari, puisque ici, en s'emparant pour y reconquérir une place, pardon, de la langue qui fonde les partages identitaires dans la société, le personnage se resocialise. À la différence du bâtard du XVIIIe siècle, il le fait non par des actions héroïques qui révèlent son mérite, mais par la prise en charge d'une recomposition familiale à laquelle il donne une valeur juridique. Certes, cette reconfiguration est aussi un retour à l'ordre bourgeois, avec un pied de nez ironique néanmoins dans la mesure où, comme l'a noté Antonia Fonyi, l'enfant acquiert un nom qui est encore un prénom. Mais c'est un retour à l'ordre bourgeois après en avoir mis au jour les failles, l'ostracisation des enfants naturels, et après les avoir exploités. Puisque le père est le mari, il suffit de donner un mari à sa mère pour avoir un père. En outre, ce sont les affinités électives qui président ici à la recréation de la famille. Certes, la fin de la nouvelle peut faire soupçonner l'ironie. L'épisode des marteaux tombant à l'unisson sur les enclumes, je cite, puissants, joyeux comme des marteaux satisfaits, et le développement appuyé de l'image, avec la comparaison par le narrateur du marteau de Philippe au bourdon d'une cathédrale, peut avoir des accents parodiques pour le lecteur. Mais l'ironie est davantage une manière de contenir la tentation lyrique et de faire passer l'émotion, je cite ici François Kerlouégan, que de remettre en cause l'argument du récit. Dans ces deux exemples, l'enfant est donc présenté comme un être de conscience, apte à faire bon usage de sa liberté, et même, chez Maupassant, comme doté d'une forme de capacité juridique. En cela, les récits complexifient la notion de minorité. Et cela est d'autant plus frappant que le récit se fait en donnant une large part, sinon le privilège, dans le papa de Simon, au point de vue des perceptions de l'enfant. Ainsi, Pierrette est émerveillée et éblouie par par la maison des Rogron, qui, je cite, lui parut un palais, alors que cette maison a été décrite comme le summum du mauvais goût par le narrateur et par les personnages de la ville haute. La restitution de la perception naïve de l'enfant a plusieurs fonctions. Elle permet de manifester une compréhension progressive du monde qui l'entoure et de mettre en relief les stratégies originales qu'il déploie pour s'émouvoir. Elle permet ensuite et surtout d'exposer la cruauté à laquelle l'enfant est en butte, cette cruauté sur lui, à travers la saisie de ses impressions et de ses sensations. Par exemple, je cite, Pierrette, incessamment maltraitée en parole, ne rencontra chez ses deux parents que des regards froids. Elle prit l'attitude hébétée des brebis. Elle n'osa plus rien faire, en voyant ses actions mal jugées, mal accueillies, mal interprétées. Le point de vue de Pierrette se signale par les verbes de perception et d'intellection, rencontra en voyant. Et donc, selon Alain Rabatel, toujours, le point de vue du personnage, raconter le point de vue du personnage, qui est donc un procédé très très largement employé dans Pierrette, est très efficace en termes d'argumentation indirecte. Le lecteur est invité à faire sienne la caractérisation des événements et à y adhérer d'autant plus fortement. Dans le récit, donc, ce procédé sert à susciter la compassion du lecteur. La restitution du point de vue de Simon dans la nouvelle de Maupassant a la même fonction. Mais dans cette nouvelle, Maupassant privilégie la représentation, et non simplement le récit, du point de vue de l'enfant, ce qui permet de lui donner plus de consistance et de modeler le récit à sa hauteur. Par exemple, l'expression par Simon de son désir de se suicider, dont l'expression naïve est d'autant plus poignante, est immédiatement suivie de la description de la vie aquatique de la rivière. J'ai mis la citation qui est un peu longue ici. Les poissons, les mouches, le miroitement de l'eau, une grenouille. Donc il arriva près de l'eau et la regarda couler. Quelques poissons folâtraient, rapides dans le courant clair, et par moments faisaient un petit bond et happaient des mouches, voltigeaient à la surface. Il cessa de pleurer pour les voir, car leur manège l'intéressait beaucoup. Oui, pardon. Mais parfois, pardon, j'étais perdue. Mais parfois, comme dans les accalmies d'une tempête, passent tout à coup de grandes rafales de vent qui font craquer les arbres et se perdent à l'horizon, cette pensée lui revenait avec une douleur aiguë. Je vais me noyer parce que je n'ai point de papa. Il faisait chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l'herbe, l'eau brillait comme un miroir, etc., etc. Donc très picturale, cette description représente des impressions et les sensations du personnage et mime le mouvement de la pensée. La concentration sur un élément précis, la grenouille, faisant place à une association d'idées, les mouvements de la grenouille en sorte d'un jeu mécanique, à une évocation lyrique ou à un brusque retour du chagrin. Cette vision au plus près du monde donne une coloration singulière, concrète et incarnée au récit et lui confère une simplicité qui contribue à sa force. Elle sert l'expression d'un pathos qui a, lui aussi, une grande efficacité en termes d'argumentation indirecte. Et ce qui frappe dans la représentation de l'intériorité des personnages est donc la place prise par la souffrance, elle-même induite par leur statut. C'est l'ostracisation brutale de Simon par les gamins du village en raison de sa qualité de bâtard qui entraîne chez l'enfant la tentation du suicide. Chez Pierrette, les maltraitances des Rogron lui font également souhaiter la mort. Avant l'arrivée de Brigot, si ce Néraud, donc c'est un médecin, eût révélé ce danger mortel, puisque Pierrette est malade, elle est atteinte de chlorose, à la petite fille, Pierrette eût souri. Elle trouvait trop d'amertume à la vie pour ne point sourire à la mort. L'importance accordée à ces souffrances enfantines du point de vue de l'enfant est originale, chez Balzac à tout le moins, et ce qui reste particulier à ces deux auteurs est d'articuler la représentation de ces souffrances au droit. Et c'est donc ce que je vais examiner à présent. Ce qui donc fait émerger une nouvelle figure de l'enfant souffrant. Donc j'en arrive à mon troisième point, qui est un petit peu plus long, et qui s'appelle le noir enfer des souffrances enfantines. Dans les récits, le statut juridique des personnages engendre donc des souffrances qui, dans un parricide des Pierrettes, deviennent l'objet de mise en scène judiciaire. La souffrance première partie enfantine comme objet de justice. En effet, dans Pierrette, les souffrances infligées à la jeune fille engendrent la préparation d'un procès dont le but est double: destituer Rogron de ses droits de tutelle et faire juger les deux célibataires aux criminels. Si, dans l'intrigue, le procès est indissociable de manœuvres politiciennes qui opposent deux clans, bref, le clan, je ne sais pas si vous avez lu le petit roman, le clan des Rogron-Vinet au clan de la ville haute, les Hauts-Fréthyphènes, il n'en reste pas moins que le développement consacré aux diverses audiences préparatoires et à la réunion des preuves consacre la prise en compte par la justice de la maltraitance envers une mineure comme un délit spécifique. En témoigne par exemple le vocabulaire utilisé par les différents protagonistes représentant la loi. Le subrogé-tuteur de Pierrette et le président du tribunal parlent de mauvais traitement et de sévices. Or, comme l'explique Georges Vigarello, le terme mauvais traitement est précisément le terme utilisé à la fin du siècle dans les lois de protection de l'enfance pour combler un vide juridique. L'expression de mauvais traitement n'est pas en soi nouvelle, mais, écrit-il, en se portant très spécifiquement sur l'enfance, elle se distingue de celle de coups et blessures utilisées généralement par la loi dans l'univers des adultes, seul crime ou délit jusque-là sanctionné. Or, le texte Balzac dans Pierrette parle vraiment de mauvais traitement. Alors, on pourrait objecter qu'il existe depuis l'Ancien Régime la possibilité pour l'enfant ou pour un proche et au nom de l'enfant de déposer une plainte en cas d'excès. Mais précisément, dans le récit de Balzac, le lexique de l'excès n'est pas celui qui est mobilisé lors de l'action en justice. Il est réservé aux commentaires privés. À Bianchon, par exemple, qui est par ailleurs un personnage relais du narrateur dans la Comédie humaine, Bianchon, donc, qui, à l'issue du récit par la grand-mère des souffrances subies par Pierrette, exprime, je cite, son indignation en termes véhéments, épouvantée d'une semblable barbarie. Ou alors, ce registre de l'excès est réservé au narrateur dressant le portrait de la grand-mère, grand-mère qui devine les peines endurées par sa petite-fille et qui est décrite comme un spectre sublime et comme une image de la terreur et de la vengeance avec des majuscules. La mobilisation de ce que Peter Brook appelle le mode mélodramatique, c'est-à-dire un certain substrat théâtral employé et retravaillé dans les représentations romanesques, marqué par des représentations intenses, excessives de la vie, qui révèlent les véritables conflits en jeu par-delà les façades des conventions, laisse l'expression mauvais traitement d'un sens bien particulier. Tout en soulignant l'excessive brutalité des violences subies par Pierrette, le narrateur circonscrit une réalité bien spécifique, à savoir le caractère particulièrement insoutenable de ces violences en ce qu'elles concernent une enfant. Si le caractère excessif des violences subies se dit dans le privé, il n'est pas absent de la scène judiciaire. Mais dans la partie judiciaire du roman, il est déplacé sur le plan de l'expertise médicale établie par les deux médecins de province, Martener et Néraud, et par Bianchon. Or, dans la loi du 24 juillet 1889, c'est précisément l'expertise médicale qui assure la qualification de mauvais traitement avec son sens nouveau de violence faite à un mineur par ses parents ou responsables légaux. L'appréciation objectivable d'un risque portant sur le bien-être de l'enfant installe des seuils et des critères totalement différents de ceux qui s'en tenaient jusque-là au risque de tyrannie, comme l'explique Vigarello. Donc, dans le roman de Balzac, le compte-rendu de consultation constitue une preuve de mauvais traitement sur laquelle le président du tribunal, donc dont j'ai reproduit l'ordonnance ici, donc sur laquelle le président du tribunal s'appuie pour demander la destitution de tutelle de Rogron et transférer la tutelle de Pierrette au subrogé tuteur. Ainsi, le choix des désignations, l'institution de l'expertise médicale en preuve et l'emploi du style juridique contribuent à resémantiser l'expression mauvais traitement dans un sens proche de celui qu'elle acquiert juridiquement à la fin du siècle, tout en signifiant la nécessité de donner une existence juridique particulière à cette notion. Enfin, le caractère révoltant des mauvais traitements est accentué par le fait que les Rogron agissent de manière exactement contraire au devoir de protection qui leur a été légalement conféré. Le rôle du tuteur est, selon l'article 450 du Code civil, donc comme je l'indiquais plus haut, non seulement d'administrer les biens du mineur en bon père de famille, mais, je cite, de prendre soin de sa personne. Dans sa partie judiciaire, le récit insiste à la fois sur la qualité de mineur de Pierrette et sur la qualité de tuteur ou de parent des Rogron, pour souligner la vulnérabilité de la première et le caractère proprement criminel des seconds. Ainsi, les anciens habitués du salon Rogron, se portant témoins, je cite, racontèrent l'épreuve d'insensibilité donnée par cette vieille fille envers sa pupille souffrante. Dans son ordonnance, le président du tribunal, par exemple, écrit, donc c'est la citation qui est affichée, la mineure Lorrain, réclamée par Rogron, son tuteur, est dans un état de maladie extrêmement grave, amenée par de mauvais traitements et des sévices exercés sur elle au domicile du tuteur et par sa sœur. La proximité des termes mineur, tuteur dans ce contexte et la répétition du terme tuteur sonnent comme une condamnation sans appel. Dans le roman, la transposition en langage juridique des souffrances subies par Pierrette, évoquée tout au long du récit en termes psychologiques, par les témoins, l'insensibilité, ainsi que par le narrateur et la protagoniste, ou alors en termes moraux, Bianchon parle de barbarie, donc donne à ces souffrances, de même qu'à l'enfant comme individu, une existence, une solennité et un relief nouveau. Réciproquement, dans ce va-et-vient, la langue du privé imprime au terme juridique un contenu moral fort. Prendre soin de la personne du mineur pour le tuteur ne doit pas être un vain mot. Cependant, cette transposition sur la scène judiciaire oblitère la dimension morale des préjudices subis, et en particulier la question du manque d'affection à laquelle le récit donne pourtant une importance considérable. Par ce décalage, le roman fait surgir un tort au sens que François Lyotard donne à ce terme. De même, la nouvelle imparricide, qui mime la forme de la chronique judiciaire, peut s'analyser comme la mise en forme littéraire d'un tort. Et donc, c'est ma deuxième sous-partie. La souffrance enfantine comme objet d'un tort. Le tort se définit comme une injustice qui ne parvient pas à se faire reconnaître juridiquement comme telle et constitue en cela un préjudice irréparable. Dans Imparricide, le récit retranscrit en partie au discours direct le plaidoyer de l'avocat, puis le plaidoyer pro domo de l'accusé. Tandis que le premier plaide la folie et la monomanie politique, le second explique son geste en une formule saisissante. J'ai tué cet homme et cette femme parce qu'ils étaient mes parents. La relation à première vue aberrante entre la cause et la conséquence impose de rétablir une logique que déploie le récit de Georges Louis. Ses parents n'ont pas accompli leur devoir de parents et en cela, ils sont coupables. Coupables envers leur enfant de l'avoir abandonné et coupables de la culpabilité de leur enfant. La juxtaposition des deux discours, donc des deux plaidoyers, renvoie ironiquement à l'interprétation de l'avocat et avec elle la parole judiciaire au tissu des préjugés sociaux, tandis que dans sa concision, la formulation du personnage fait entendre tout ce que la parole judiciaire n'entend ni ne fait exister, et ce faisant, formule en tort. Dans l'explication de son acte, Georges Louis met en balance les causes ayant conduit ses parents à l'abandonner et les conséquences sur lui de cet acte pour mieux souligner l'inanité des premières, à savoir l'obéissance à la décence et aux préjugés sociaux évoqués à deux reprises, et surtout pour retourner contre les parents la faute qu'ils ont commise en la requalifiant en crime. Ainsi, Georges Louis déploie quelques étapes de sa biographie d'enfant naturel qui prennent une valeur exemplaire. Le risque plus grand de mort en bas âge, puis la découverte dans le regard et les paroles des autres de son statut de bâtard, et enfin l'absence d'affection. Le discours opère un glissement de l'exclusion et de la honte sociale à un sentiment de rejet reformulé en termes affectifs. Ce mouvement d'intériorisation s'exprime dans une nouvelle formule frappante par sa concision qui vaut acte d'accusation. Ce crime, c'est contre moi qu'ils l'ont commis. Je fus la victime, eux furent les coupables. J'étais sans défense, ils furent sans pitié. Ils devaient m'aimer, ils m'ont rejeté. La désignation de l'abandon comme un crime et l'opposition des termes coupable-victime signifient d'emblée que la faute initiale des parents et ses conséquences sur l'enfant doivent être jugées en justice, au moins autant que le meurtre commis. La série de parallélismes fait des notions mobilisées, d'un côté l'absence de pitié et le rejet, de l'autre la vulnérabilité et l'obligation d'amour parental, autant de déclinaisons de la culpabilité et du statut de victime, et leur donne une coloration juridique. Du reste, l'évocation de la vulnérabilité sans défense peut renvoyer au devoir inscrit dans la loi, des parents envers les enfants. C'est ainsi que le manque d'amour est ici redéfini en préjudice. L'opposition des imparfaits au passé simple, ils furent sans pitié, et au passé composé, ils m'ont rejeté, qui tombent comme des couperets, suggère non seulement que les parents ont rompu brutalement une attente légitime, mais que les conséquences de cette rupture perdurent au moment de l'énonciation. La symétrie des groupes rythmiques et la parataxe restituent toute la violence de la rupture et du préjudice. C'est ainsi également que cette opération de requalification institue en tort le défaut d'affection des parents. Ce tort, c'est donc non seulement d'avoir été abandonné enfant, mais d'avoir été abandonné une deuxième fois, alors que, dit-il, dernièrement encore, j'étais prêt à les aimer. Ou encore, parlant de l'homme, son père donc, je me sentais de l'affection pour lui. Ce qui frappe dans le plaidoyer réquisitoire du personnage, c'est donc la place assignée aux affects et la souffrance de ne pas avoir été aimé. Ainsi, quand ses parents refusent de reconnaître Georges Louis au moment où celui-ci comprend qui sont l'homme et la femme qui viennent lui donner de l'ouvrage, il s'écrie: Alors, il me sembla tout à coup que je venais d'être fait orphelin, d'être abandonné, poussé au ruisseau. Certes, dans leur logique de réciprocité qui conduit au crime, les justifications du personnage peuvent paraître excessives. Par exemple, ils cherchaient un plaisir égoïste. Ils ont eu un enfant imprévu, ils ont supprimé l'enfant, mon tour est venu d'en faire autant pour eux. Il n'empêche que la crudité des termes et le jeu sur le double sens supprimé, par exemple, qui est repris par le pronom en, est d'une grande efficacité rhétorique. D'autant que le narrateur, s'il reste en retrait, ne disqualifie pas ce discours. Il prend au contraire ses distances avec la plaidoirie de l'avocat, où le discours indirect libre et l'usage du pronom on donc ont une valeur ironique. Et en revanche, il laisse se développer l'argumentation de Georges Louis sans intervenir et relaie, pour finir, en interpellant le lecteur, l'appel au jugement par lequel le personnage achève son discours. Le lecteur est alors directement appelé à participer à la reconnaissance du tort exposé par l'accusé. Et en effet, la nouvelle s'achève par cette question posée par le narrateur chroniqueur. Si nous étions jurés, que ferions-nous de ce parricide? Dans Pierrette, on l'a évoqué, la mise en évidence du tort réside dans la distorsion entre la place accordée à l'expression des souffrances morales de la fillette au cours du récit et leur passage sous silence lors de l'épisode judiciaire. Ces souffrances consistent en brimades continuelles, mais elles sont également identifiées, comme dans un parricide, à l'absence et au refus d'affection. Cette explication occupe une place importante dans la relation implacable de la destruction morale et physique de l'orpheline. Le narrateur oppose la Bretagne idyllique, où l'enfant est, je cite, aimé, choyé, protégé par sa grand-mère et Brigot, à province et au Rogron, caractérisé par la sécheresse et la dureté. Et cette opposition se formule de manière récurrente par l'emploi du terme affection. Donc, je donne quelques exemples, mais ils sont très nombreux. Ni la sœur, ni le frère n'admettaient l'affection, et Pierrette était toute affection. En 2 ans, Pierrette ne reçut pas un compliment, pas une parole affectueuse. Une métaphore exprime tout particulièrement la brutalité de ce refus. Les roses d'affection qui s'élevaient si fraîches, si gracieuses dans cette jeune âme et qui voulaient s'épanouir au dehors étaient impitoyablement écrasées. À charge donc au roman d'exposer ce que la justice ignore, d'autant plus que le dénouement extrêmement noir du récit, qui met en relief le cynisme des différents protagonistes avec une ironie grinçante, constitue une mise en cause radicale de l'appareil judiciaire. C'est la littérature qui exerce alors sa fonction judiciaire traditionnelle. Elle éprouve l'écart entre les lois et les conduites pour explorer et contester les premières. Dans Pierrette, il s'agit davantage de contester les jeux dilatoires de la procédure qui permettent justement de ne pas appliquer la loi. Mais dans les deux récits, le tort représenté octroie une place essentielle à la question de l'amour dans la relation à l'enfant. Et donc j'en viens donc à ma dernière sous-partie, la grande question des affects. Alors certes, la question n'est pas nouvelle. Les analyses de Michel Foucault ont bien montré comment la famille, échangeur des dispositifs de sexualité et d'alliance, est, je le cite dans La volonté de savoir, hein, devenue depuis le XVIIIe siècle un lieu obligatoire d'affect, de sentiment, d'amour. Les historiens de la famille soulignent également l'importance de la promotion de l'amour maternel et du père sentimental dans la bourgeoisie. On peut penser par exemple aux travaux de Claudie Bernard ou de Jean-Claude Bonnet pour la question de la paternité. Mais l'originalité de Balzac et de Maupassant réside dans la manière dont chacun d'eux pense l'affection en relation avec le droit. Si elle n'apparaît pas dans le code civil, ni dans la législation pour l'enfance, l'affection tient une place importante dans les débats qui ont présidé à la rédaction des articles du code civil sur l'institution familiale, en particulier à propos des successions. Significativement, dans Naissance du Code civil, dans son ouvrage Naissance du Code civil, donc qui recueille en fait l'ensemble des travaux préparatoires, enfin une sélection, c'est une anthologie des travaux préparatoires du Code civil, François Ewald recense l'ensemble de ces débats sous le titre Les droits de l'affection. Il faut préciser que Balzac connaissait les travaux préparatoires du Code civil auxquels il fait référence à plusieurs reprises dans son œuvre. Maupassant, qui a fait des études de droit, les connaissait peut-être également. Ainsi, lors des discussions des travaux préparatoires du Code civil, la succession ab intestate, c'est-à-dire sans testament, est présentée comme une sorte de testament présumé attribuant les liens d'après les affections probables du défunt. Par exemple, Bigot Pramaneux affirme: les liens du sang qui unissent et qui constituent les familles sont formés par les liens d'affection que la nature a mis dans le cœur des parents les uns pour les autres. L'énergie de ces sentiments augmente en raison de la proximité de parenté et elle est portée au plus haut degré entre les pères et mères et leurs enfants. Il n'est aucun législateur sage qui n'ait considéré ces différents degrés d'affection comme lui présentant le meilleur ordre pour la transmission des biens. La référence aux affections est bien évidemment théorique et fonctionne comme argument pour justifier à la fois l'ordre des successions, le partage égalitaire des biens et l'exclusion partielle des enfants naturels de la succession. Il n'en demeure pas moins qu'elle situe les droits de l'affection à l'origine de la loi. Un parricide et Pierrette peuvent alors se lire comme des cas qui prennent à la lettre cette dimension juridique des droits de l'affection. En tant qu'héritière collatérale des Rogron, Pierrette devrait recueillir leur affection, même atténuée par rapport à celle de ses ascendants directs. La nouvelle imparricide, quant à elle, remotive ironiquement le topos mélodramatique de la Voix du sang, j'en ai dit un mot, qui réclamerait donc la manifestation de la tendresse paternelle. Ces figurations ont pour premier effet de mettre férocement en cause les présupposés idéologiques qui fondent la famille bourgeoise et les préjugés sociaux qui en découlent, la décence et l'honorabilité. À cet égard, de nombreux récits des deux écrivains offrent un contrepoint comique. Chez Maupassant, l'héritage, l'enfant, le testament, histoire d'une fille de ferme, par exemple, chez Balzac, Ursule Mirouet, présentent toutes sortes de recompositions familiales heureuses autour d'un enfant naturel. À propos d'Ursule Mirouet, Nicole Mauzé montre que le roman opère, je cite, une stupéfiante redéfinition de la filialité conçue en termes d'amour et non plus en termes de sang. Ce commentaire peut très bien s'appliquer à nombre de nouvelles de Maupassant et, a contrario, à Pierrette et à un parricide. En outre, en mettant l'accent sur la souffrance, la particularité de Pierrette et d'un parricide est d'articuler la question de l'affection à celle de la protection. Dénominateur commun de la législation sur l'enfance au XIXe siècle, la notion de protection, on l'a vu, évolue d'une définition a minima dans le Code civil, où il s'agit de prendre en charge la faiblesse physique de l'enfant pour le conduire à l'âge adulte, à la prise en compte de ses souffrances, envisagées sous l'angle des châtiments corporels et de la moralité. Les récits de Balzac et de Maupassant enrichissent donc la notion de protection d'un contenu positif. Il ne s'agit pas seulement de soustraire l'enfant à, mais de l'aimer. Ce faisant, ces récits renouvellent le regard sur la vie morale de l'enfance, à laquelle ils donnent une étendue qui excède largement la question de la moralité. Pour conclure, on pourra donc retenir que le traitement original de la figure de l'orphelin et du bâtard dans les récits étudiés donne une teneur particulière à la question de la souffrance enfantine, mais aussi aux catégories juridiques qui définissent l'enfant. Il est en effet remarquable que le mineur, l'enfant, n'y soit pas uniquement représenté comme psychologiquement faible et juridiquement incapable, mais doté d'une voix propre, d'une conscience et d'une aptitude à la liberté, bref, comme un véritable sujet. Ainsi, Pierrette, le papa de Simon et un parricide s'inscrivent sans doute dans la lignée des récits littéraires contribuant à la reconnaissance des souffrances enfantines, et en particulier celles des enfants naturels, mais en ajoutant un terme neuf au débat. Je vous remercie.